Au les plaisirs des Utopies, votre émission Radio Campus relative aux amours pluriels, réalisée et présentée par Philippe du site polyamour.be. C'est ici que la magie des amours multiples nourrit son imaginaire, c'est ici qu'elle s'offre aux rencontres métissées. À l'ombre du jour, le micro entre les dents, le cœur nomade, je parcours les berges à la recherche des polyglottes de l'amour. Bonjour Isabelle.
Bonjour Phil.
Bien, je vais commencer par une petite question peut-être qui peut te surprendre, mais c'est pour aussi faire connaissance, voilà. Quel est le livre que tu as lu dernièrement ?
Waouh ! Actuellement, je suis dans Rencontre avec la splendeur. C'est une sorte de voyage initiatique dans les lettres hébraïques. Mmh. Ouais, je suis bien là-dedans depuis quelques temps et un voyage dans le voyage.
Donc c'est quoi ? C'est une invitation à quelque chose d'onirique ou on est tout de suite dans l'imaginaire ou ça se raccroche à des textes plus anciens ?
Oh, ça se raccroche à des textes plus anciens, c'est un voyage spirituel aussi, c'est un pont aussi entre plein de religions ou de manières de vivre plein de religions. Et pour moi, c'est une nourriture bien essentielle en ce moment. ouais, vraiment. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce... Je suis encore dedans, j'ai pas fini, c'est... Un livre par étapes. Et ça me fait parfois un peu voir ma vie comme une succession aussi d'étapes initiatiques aussi d'une certaine manière. En tout cas, en ce moment.
Et donc tu vis aussi, si j'ai bien compris, un petit peu retiré du monde, si on peut dire ça comme ça, et en même temps à 2 km de la plage, donc c'est pas mal, dans un système de vie à plusieurs... qui est assez caractéristique.
Ouais, moi j'aime bien dire que je vis dans une tribu, d'une certaine manière, avec 10 et 20 personnes en général. C'est fluctuant, beaucoup de nouveaux voyages, une bonne partie de l'année. Et voilà, comme ça, des sortes de solitudes solidaires qui s'allient et qui essayent de vivre au plus proche de la nature et des idéaux de chacun. On est tous assez différents, mais il y a quand même des choses très fortes qui nous unissent. Et voilà, on vit en Bretagne, dans une friche, dans des tout petits habitats. Ouais, c'est aussi un lieu où le polyamour, même si on n'emploie pas trop ces termes-là, c'est quelque chose qu'on vit de manière assez naturelle et qui est peut-être plus la norme là-bas que d'autres normes de la société, et c'est aussi très agréable pour moi de vivre dans cet espace-là aussi pour ça, et de partager à propos de ce qu'on vit chacun.
Oui, tout à l'heure j'ai eu une image étonnante parce que tu me confiais que le premier qui faisait du feu dans sa petite yourte ou un peu ce style-là de vie, ben, ça faisait forcément un peu de fumée et que du coup... on avait tendance à se rassembler dans celui qui allait commencer à faire un feu, simplement pour le plaisir d'être ensemble. Donc c'est des modèles pour nous qui sont pleins de beauté, pleins de... ça nous fait rêver.
Ah bah ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est, on n'utilise pas forcément les mêmes codes, quoi. Il y a aussi une sorte de langage qui se... Même si on n'en a pas conscience. Enfin, j'avais pas conscience tout à l'heure quand je te parlais de ça. Mais oui, une sorte de langage un peu... En fonction de ce qu'on utilise, ouais. Et c'est vrai que le foyer, le feu, ça prend une importance énorme dans ces conditions de vie-là. Et que c'est le centre de plein de choses, quoi. La chaleur, la nourriture, la lumière.
Donc moi je fais le lien avec le polyamour, parce que tu viens déjà d'en parler aussi. Mais tu as été radical dans ta vie il y a quelques années, hein, tu travaillais plutôt en ville. Puis tu as eu vraiment envie de changer de manière radicale ton mode de vie pour peut-être aller vers un système... qui te semblait plus proche. Et donc ma question, c'est est-ce que les relations d'amour pluriel, est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression que c'est ancré en toi depuis ton adolescence et que tu étais un petit peu en déphasage et que tu as rattrapé une sorte de cohérence de vie plus tard, ou alors c'est une découverte assez brutale qui a été faite par une rencontre précise ?
Oui, vraiment, pour moi, c'est global et c'est en moi depuis très longtemps, sauf que je ne me l'autorisais pas. Vu mon éducation, vu le milieu dans lequel j'ai été élevée, et je sentais bien qu'il y avait des choses comme ça qui étaient très là depuis très longtemps, des très grandes frustrations aussi quand j'ai pu vivre des expériences monogame auparavant, des incompréhensions aussi. Je me souviendrai toujours cette fois où un de mes amoureux avait eu une aventure et je m'en étais rendu compte. Et au moment où lui avait assumé, pour moi, ça y est, on en avait parlé, c'était fini. Et lui, pour lui, c'était le début d'une crise, alors que pour moi, c'était la fin d'une crise, ce moment où on en parlait. Et où lui a pris ça comme mon manque de jalousie devenait un manque d'amour pour lui. Mmh. Et a été beaucoup plus déstabilisé par ma réaction que moi, par la sienne et par cette tromperie, comme il disait. Et c'est vrai que dans des modèles comme ça, je me sentais complètement étrangère. Enfin, je comprenais rien, quoi. Donc oui, j'ai vraiment l'impression de m'être rapprochée de quelque chose qui était au fond de moi depuis longtemps et auquel j'ai osé aussi. Ouais. Ce que j'osais pas forcément, j'ai osé l'assumer aussi par rapport aux gens qui me connaissaient avant, normal. Ma famille, entre autres, ça a été un grand, grand pas, ça, d'en parler. Mm-hmm.
Il y a eu de l'étonnement de la part de tes parents, tes frères et sœurs?
L'étonnement, oui, mais en même temps, pas tant que ça, je pense, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sentaient sans trop poser de questions, et c'était plutôt de la clarification que de l'étonnement. Parfois de la difficulté à accepter, mais globalement, je suis assez satisfaite quand même de la manière dont... Je sais qu'ils n'aiment pas trop en entendre parler, mais voilà, ils le savent, c'est comme ça, et... Ça fait son chemin doucement, je ne veux pas non plus. C'est assez récent le fait que j'en ai parlé, alors que ça fait maintenant plus de 6 ans que je vis ce type de relation. Ça fait son chemin doucement.
Est-ce que tu as l'impression qu'en ayant fait ces choix radicaux de vie dans un système, un espace, un fonctionnement plus partagé, plus solidaire, est-ce que tu as l'impression que c'est... un avantage dans ton choix de vie?
Oui, forcément, sinon je ne l'aurais pas fait. Enfin, en même temps, j'ai l'impression que je n'ai pas le choix parce que les choses vraiment s'imposent à moi comme une évidence et des fois j'ai l'impression que, que ma vie, c'est comme si je reliais comme ça des caps où dès que je prends un peu de recul, je vois toute la logique, mais quand je suis vraiment dedans, les choses s'enchaînent, s'emboîtent les unes dans les autres sans que je m'en rende trop compte, mais je vois un peu la cohérence quand je prends du recul. Et oui, c'est sûr, je fais énormément de liens. Pour moi, il y a une sorte d'écologie relationnelle qui est très liée, une sorte d'un aspect politique aussi par rapport à la compersion, au fait de ne pas posséder l'autre, d'être beaucoup plus dans l'être que dans l'avoir, enfin toutes ces choses-là et bien d'autres aussi. Pour moi, c'est lié et j'aime bien dire que la politique commence dans mon lit. Voilà, c'est essentiel pour moi et je ne peux pas changer le monde, mais je peux changer le monde dans lequel je vis, mon petit monde. Ça, je peux en tout cas influer dessus et c'est... Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Mais... Non, mais c'était une première question qui faisait peut-être plus lien à quelque chose de plus précis que je voulais te poser. Ouais. Donc je sais, parce que peut-être que j'habite aussi en ville et que j'ai un peu grandi à la campagne, mais je sais que tu as quitté un mode de vie, surtout parisienne, qui est quand même assez stressant, et que avant d'arriver en Bretagne, là où tu es, dans un système de vie plus communautaire, tu as aussi un petit peu vagabondé dans des communautés plus ou moins nomades. Donc tu as eu comme une sorte de parcours initiatique avant d'arriver là où tu es. Est-ce que tu peux nous parler de cette petite période, ce que tu as pu un peu observer dans ces autres groupes?
Moi, j'ai senti énormément d'ouverture, énormément de... d'ouverture par rapport à tout ça. Et je me suis aussi rencontré pas mal de gens qui avaient des mêmes cheminements ou qui étaient au bord de ces cheminements-là et à qui ça permettait un peu de passer le cap aussi. J'ai l'impression qu'on va vers ça. Enfin, je me souviens que, justement, quand j'ai commencé à en parler à ma mère et qui au début était très... très, très réticente, et quand ma sœur lui a dit « Mais tu sais, ils sont juste peut-être... quelques années en avance, et dans quelques années, ce sera très... Regarde-toi d'autres pratiques qui pouvaient paraître très choquantes quand tu étais jeune, et maintenant, regarde aussi tous ces systèmes de divorce et de relations consécutives. Et j'ai senti aussi cette... en fait, il y avait un petit peu... quand je parle de ça, je m'éloigne de ta question, mais je dis ce que j'ai à dire aussi. Je ne sais pas trop. Quand soit les gens, ils sentent leur modèle remis en cause et ça coince. Mm-hmm. Soit ils sentent une porte qui s'ouvre. Alors, voilà, ce n'est pas forcément une porte pour eux, mais oh, pouf, plein d'air, quelque chose de possible, de vécu, d'oser. Et c'est vrai que... Faut faire aussi super gaffe parce que je suis après, enfin pas non plus faire trop d'amalgame avec la libération sexuelle des années 70, les hippies, tout ça, parce que c'est quand même des grandes différences. Puis on n'est plus du tout dans le même contexte, ni social, ni politique, etc. Donc parfois, il faut aussi un peu de temps aux gens pour bien voir ce dont on parle. Mais en tout cas, oui, je sens vraiment la cohérence avec les nouveaux, enfin tout ce fonctionnement en réseau aussi, toute cette, enfin ouais, la vie en communauté aussi, c'est ben forcément ça, enfin il y a énormément de liens avec vivre des relations polyamoureuses et c'est le début d'une sorte de petite communauté aussi, mais bon, la famille en est une aussi, même si elle est, ouais.
Et Isabelle, une question plus indiscrète, est-ce que le vent souffle à travers toi?
Ça oui, je crois. Ça oui, je crois.
Alors, tu devines pourquoi je te pose la question. Le vent souffle à travers moi.
Tu veux parler de Frédéric?
Voilà, donc pour la petite histoire, ben, Frédéric était venu au micro aussi de Polyplaisir des Utopies il y a quelques semaines, quelques mois. Il venait de Norvège et j'ai cru comprendre qu'il était en relation avec toi. Et donc il avait cette belle phrase de poésie pour introduire son émission qu'il avait dit en norvégien, donc c'était assez succulent.
Ah ouais, tout à fait. On a un parcours commun depuis un bon 7 ans maintenant. et voilà, complètement traversé par les relations polyamoureuses qu'on a découvert en fait ensemble. Et, ouais. Et on s'est ouvert ensemble à ça. Et où on chemine depuis. Tout à fait.
Donc Frédéric et toi, c'est une belle histoire d'amour, et donc vous restez vraiment dans des ouvertures parallèles. C'est des choses dont vous parlez beaucoup, je pense aussi. Hein. Il y a une qualité de communication entre vous à ce niveau-là, je pense, importante. Parce que ça ne se fait pas comme ça, ce sont des pas qu'on pose petit à petit.
Oui, tout à fait, c'est un cheminement, et pour moi, je peux même dire pour nous, la parole, c'est vraiment essentiel. Et la parole, la clarté, alors pas forcément la compréhension de l'autre, parce que je pense que c'est parfois vain de vouloir comprendre, mais par contre accueillir ce que l'autre a à dire et communiquer énormément et essayer de parler, d'exprimer comment on se sent, d'exprimer qu'est-ce qu'il est en train de se passer, qu'est-ce qui s'est passé. Et oui, on a chacun des relations, d'autres relations et une relation commune aussi. Et c'est vrai que le langage est quelque chose de très 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 important, mais je pense aussi que ça permet, en tout cas pour moi, ça permet un travail sur moi qui passe vraiment par ça, et aussi la découverte et le développement de plusieurs de mes facettes, parce que forcément je suis pas exactement la même avec tout le monde, et dans telle relation je vais davantage développer telle part de moi et dans une autre, et ça j'aime cette richesse et cette ce que ça m'apporte aussi vis-à-vis de moi-même et de mon évolution, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on développe, qui est essentiel et qu'on prend même beaucoup de plaisir à élargir au-delà de nos relations proches, c'est-à-dire on a aussi besoin d'en parler avec les gens que ça intéresse, et ça je crois que c'est un beau travail de communication qui peut s'élargir aussi à plein d'autres domaines de la vie.
Donc Frédéric et toi, je comprends qu'il y a déjà ce travail sur vous qui a l'air important, le défrichage, de compréhension de son rapport à l'autre, la jalousie, des choses comme ça. Et les gens que vous incluez doucement dans vos relations polyamoureuses, est-ce qu'ils ont le même parcours, ou comment vous avez pu vivre, est-ce que vous avez dû les inviter doucement aussi à des modèles différents?
En fait, ça dépend. Les gens avec qui on est liés tous les deux actuellement, c'est des gens qui avaient déjà l'expérience du polyamour avant. En tout cas, eux, pas forcément leurs compagnons à eux, compagnons, compagnonnes, mais eux, oui. Et où c'était plutôt approfondir maintenant les choses et trouver un terrain commun. Parce qu'ils avaient des relations polyamoureuses, mais pas forcément tous dans la même clarté et dans la même exigence de transparence que ce que nous, on avait. Mais ça, bah, c'est aussi adapter la relation aux besoins de chacun. Mais c'était quand même actuellement, ce qui n'a pas toujours été le cas. Là, il y a aussi une personne qui est sortie du réseau il y a quelques semaines et avec laquelle c'est encore très, très douloureux. Mais en ce moment, les gens qui sont activement, je vais dire, c'est dans ce cercle-là, c'est plutôt approfondir et ont déjà un parcours polyamoureux bien riche. Et c'est
Et les choses que vous arrivez à baliser entre vous, qui sont sans doute nécessaires pour construire, puisque parfois je pense qu'il y a une image des polyamoureux, on dit oui, dans le fond, ils peuvent tout se permettre, et en fait c'est assez faux. Il y a des balises. Est-ce que ces balises sont négociables? Comment ça se passe parce que quand on inclut, ben forcément, on amène un autre imaginaire et qu'il y a des réactions, des réajustements. Comment ça se passe s'il y a un réajustement à faire? Est-ce que ça redevient des nouvelles règles dans l'absolu ou est-ce que c'est négociable ou comment ça peut un peu se passer?
Moi, j'aime beaucoup le terme d'engagement libre. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression qu'entre nous, c'est ça. Il y a des engagements très précis, mais aussi beaucoup de liberté. Et on a des règles, on fait des agréments, mais qui sont tout le temps renégociables, renouvelables. Et ce qui est important, c'est de tracer le cadre. Après, le cadre, ben, il peut bouger, il peut se transformer. Il peut y avoir aussi quelque chose qui va sortir du cadre, de la limite pendant un temps, mais... Si on le partage, si on en parle, ben ça fait aussi partie de la vie. Et après, on voit si on va bouger le cadre pour bouger la limite parce que quelqu'un est sorti de la limite. Et est-ce que c'est parce que la limite est à sa mauvaise place? Ou au contraire, ben non, c'est une erreur de parcours et la limite va rester à la place où elle était avant. Ça, c'est encore une fois, c'est le dialogue. Et c'est quelque chose qui, au début, me paraissait... me gênait un petit peu dans les relations polyamoureuses. J'avais l'impression d'une grande insécurité parce que rien n'était figé. Et aujourd'hui, au contraire, pour moi, ce qui me paraissait être une insécurité m'apparaît plutôt comme quelque chose d'extrêmement riche et de moteur et d'excitant aussi. Et le fait aussi d'avoir à renouveler sans cesse. J'ai l'image d'un bateau comme ça où on a à peu près l'image d'où on doit aller, mais on doit recalculer le cap indéfiniment en fonction des événements, de ce qui se passe autour, des gens, de l'environnement. Et j'aime cette sorte d'attention constante qu'on doit avoir pour maintenir la position juste avec tout ce qui se passe et non pas contre. Vraiment avec.
Est-ce qu'on oserait parler comme ça d'une sorte de supplément d'âme dans la relation polyamoureuse? On tenterait vers ça.
Ça, c'est... je peux pas dire ça, parce que supplément d'âme, qu'est-ce que... Enfin, ouais, je sais pas trop. Mais... Ouais, ça, je sais pas trop. Mais en même temps... moi, c'est vrai que je sens que ça me fait accéder à des... Je me surprends, je m'impressionne, je suis sur des terrains où je ne me serais jamais imaginé être, quoi. Et ça, c'est une nourriture extrême pour moi. Après, parler de supplément d'âme, ça, je laisse ouvert.
Ouais, c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'était peut-être un peu pour glisser vers le terrain de la poésie, parce que j'ai l'impression que dans une vie, c'est peut-être important d'oser un peu de la poésie. Mais je revenais aussi, j'ai envie de revenir à... Cette idée de cadre mouvant, ce cadre mobile dont tu parlais, moi c'est des questions, je suis aussi polyamoureux, c'est aussi des questions qui m'intéressent de savoir. Donc on est d'accord, on renégocie, et en même temps, si je pousse un peu l'extrême, renégocier sans cesse, est-ce que, enfin je fais un peu une caricature, mais tu parlais donc de faire un pas de côté qui pouvait être admis, ça je trouve que c'est une belle tolérance, et si on pousse un peu le bouchon, est-ce qu'on pourrait se dire, oui, mais en tout cas, ceux qui auraient envie de comprendre le polyamour et qui se posent quand même des questions, parce que c'est jamais simple, et ça, on le sent déjà dans ce que tu dis, hein, qu'il y a un accès, à mon avis, à des grandes joies, et qu'à d'autres moments, bah, comme dans toute relation humaine, qu'elle soit polyamoureuse ou pas, il y a un peu des moments plus fragiles. Est-ce que tu penses que cette renégociation qui demande du temps, Si elle est un peu perpétuelle, est-ce qu'elle va pas un peu devenir stérile?
Perpétuel, tout est relatif parce qu'en fait, on renégocie quand on a besoin de renégocier. Et je pense aussi qu'en prenant de la bouteille, en prenant de l'expérience, ben, il y a plein de choses qu'on n'a plus besoin de renégocier ou qui se renégocient très très facilement. Et quand tout à l'heure je parlais de cet écart, par exemple, à la limite qu'on s'était fixée, moi je sais que pour moi ça a été à mon grand étonnement un immense cadeau parce que ce que j'aurais pu recevoir comme quelque chose. Oh, ils ont dépassé les limites, on avait un accord, hein. Et ben pour moi, ça a été waouh, ils m'en parlent tout de suite, ils ont totale confiance, ils sont penauds, mais on en parle. Et pour moi, ça a été un cadeau de pouvoir le partager, de pouvoir. Très vite, on a su ce qu'on faisait, ben non, on remettait la limite comme elle était avant, et puis voilà. Et c'est ça aussi, on essaye, non seulement, enfin, on peut, enfin. On essaye aussi dans nos manières de communiquer de ne pas s'embourber là-dedans. Et le
Donc ils avaient
but.
une grosse envie, ils ont réalisé, et en même temps ils ont envie de sentir ta limite à toi aussi, c'était ça.
Voilà. De
C'était le
sentir.
grand écart entre ça.
Là, je ne comprends pas ce que tu dis.
C'était donc pour eux une démarche, tu parlais d'être penaud, donc ils avaient conscience que ça pouvait te blesser, mais ils avaient envie de t'écouter et de renégocier avec toi cette limite.
Oui, enfin, c'est pas quelque chose qui me concernait uniquement moi, on était tous concernés, mais c'était plutôt, on avait tous ensemble, on avait un accord, et cet accord-là, on ne l'a pas tenu, et donc on s'excuse, mais on le reconnaît,
C'est ça.
et si on ne l'a pas tenu, maintenant on réfléchit tous ensemble, pourquoi on ne l'a pas tenu, et c'est parce que, voilà, est-ce que c'est un écart, est-ce que c'est, comment on dit, l'exception qui confirme la règle, ou des choses comme ça, ou est-ce que c'est que la limite a besoin d'être bougée. Mais comme il y avait clarté, comme il y avait confiance, et eh ben la décision, elle était très facile à prendre. Et aussi qu'il y avait le but de tout le monde, c'était de vite sortir de ça, quoi. Et non pas de s'y enfin, de, voilà, de s'y embourber, de compliquer les choses. Ça aussi, c'est très important. Et plus ça va, plus ces négociations-là sont efficaces, quoi. Mais en même temps, ça me fait un peu penser au principe de la sociocratie, de la prise de décision par consensus, où au tout début, on va négocier pendant des heures et des heures et des heures pour trouver un accord, et puis petit à petit, en se familiarisant avec ces méthodes-là, eh ben, on va vraiment pouvoir bénéficier des fruits de ça et assez rapidement. Mais c'est comme tout, ça s'apprend, c'est une pratique, et voilà quoi.
Thank you. tu quelqu'un qui écrit ?
Un petit peu, ouais.
Et donc, est-ce que c'est en corrélation avec donc, ton mode relationnel ? Est-ce que tu as l'impression que ça a été une sorte de grand réservoir d'imaginaire, de sensations qui pouvaient peut-être nourrir une certaine écriture ?
C'est des projets. J'écrivais déjà un petit peu avant. J'ai un grand désir d'écrire, même si actuellement, je le fais assez peu. Je pense que oui, mais c'est pas mûr encore. C'est pas mûr encore. Et actuellement, c'est plus. J'utilise plus comme des jeux entre nous, des jeux d'écriture poétique ou des choses comme ça qu'on va pouvoir faire, parce qu'on passe pas mal de temps à distance géographiquement. Et où ça, c'est des choses très faciles à faire avec les moyens de maintenant. Par réseau, par ordinateur, et où entre nous on utilise l'écriture pour jouer à distance, pour communiquer, pour faire autre chose que juste se demander des nouvelles, mais arriver à partager ensemble du jeu, de la créativité malgré la distance. Après, pour un travail plus personnel, je sens que c'est qu'il y a plein de possibilités, plein d'axes, mais que c'est encore en maturation. Ah ouais. Il y avait une petite ébauche sur le site d'ailleurs. Un texte, nommé, ouais, cheval de Troie, ouais. C'était ouais, Isaac, c'est moi aussi. Le pseudo sur le site Poly. Poly Belgique, ouais.
Et moi, je sens, donc, on a partagé un petit peu de temps avec Frédéric et toi, et je sens beaucoup de respect dans votre couple, c'est impressionné. Une sorte de maturité, une écoute à l'autre, avec de la joie aussi. Hier, je vous voyais partir en vélo, comme ça, vers le centre-ville. Il y a quelque chose de ludique comme ça, et avec du respect. Moi, je suis impressionné. Je trouve que c'est une très belle relation.
Merci. C'est vrai que nous, c'est aussi un peu notre. Enfin, ouais.
Il y a combien de temps, Frédéric, que tu...
Ça fait 7 ans ouais, qu'on s'est rencontrés. Il y a un éloignement de 8-9 mois, il y a quelques années déjà. Mais un nouveau départ après. Je sens, oui, petit à petit, on arrive à. Un peu à rayonner tel qu'on le souhaite, même si encore encore du chemin. En fait, j'ai l'impression, pour moi, que j'ai vraiment une gagné en autonomie affective, en fait, et que ça m'a donné une certaine force que j'avais pas du tout avant. Et je peux plus perdre Frédéric, d'une part parce que je le possède pas,
ouais.
Et d'autre part parce que ce qu'on a vécu, ça existe quoi qu'il arrive. Et ça, je ne peux pas faire que ça n'existe pas. Ça se peut que ça n'existe plus tard, mais au présent, je suis extrêmement riche de ce qui existe, de ce qui a existé, de ce qui existe au présent. Et ça, on ne peut pas me l'enlever, ça existe. Donc c'est à moi, à nous, de faire pour que ça continue, ça évolue, ça change. Mais je me sens beaucoup plus riche de ce qui est que stressée de ce qui pourrait ne plus y avoir. Et ça, c'est une force pour moi, vraiment, vraiment. Et aussi... une grande, grande découverte dans ces relations polyamoureuses, ben, ça a été moi-même. C'est-à-dire que dans mes relations d'avant, eh ben, je sentais lui ou elle, ou je sentais le couple. Mais là, j'ai l'impression que moi, je m'aime aussi dans la relation comme une des personnes de la relation, de manière complètement nouvelle par rapport à mes relations d'avant. Et je me découvre... Et je découvre mon intérêt pour moi-même d'une manière vraiment aussi importante que les autres, quoi. Et découvrir cet autre moi-même, ça, c'est chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Et ouais, ça aussi, c'est un retour auquel je ne m'attendais pas du tout, quoi.
Mais donc, ça veut dire aussi, dans ce que j'entends, et qui je trouve magnifique, c'est d'être plus tolérante envers toi.
Ouais, ouais. Davantage m'accepter comme je suis et comme je suis pas aussi. Et mais c'est ça aussi, pour moi, c'est une logique beaucoup plus globale, quoi. C'est s'appuyer sur ce qui est, s'appuyer sur ce qu'on a, s'appuyer sur, enfin, faire avec ce qui est disponible et puiser l'énergie de ça plutôt qu'avec ce qui... Je me souviendrai toujours d'une phrase d'un photographe qui avait fait une série photo fabuleuse dans une maison pour personnes folles, soi-disant, et où on ne voyait pas sur les photos qui étaient les soignants et qui étaient les fous. Et où il disait que pour lui, ce qui était important, ce n'était pas ce qui séparait les gens, c'était ce qui les unissait. Mmh. Et je crois que dans le polyamour, particulièrement, on ne peut pas fonctionner si on n'est pas dans cette optique-là. Ce qui est important, c'est ce qui nous unit. Si on commence à chercher ce qui nous sépare, on va pas s'en sortir. Et c'est vraiment s'appuyer sur ce qui nous unit, sur ce qu'on, sur ce que ce qui est un truc qui a une découverte. Et aujourd'hui, je suis très heureuse parce que je me rends compte que ça le fait aussi pour bien d'autres que pour moi. C'est quand dans des relations polyamoureuses, je me rends compte que les relations à deux vont nourrir d'autres relations à deux. J'essaie d'être peut-être un peu plus claire. C'est-à-dire qu'en fait, les relations vont s'internourrir les unes entre les autres. Mmh. Et par exemple, actuellement, donc j'ai des relations avec Frédéric et avec Julia, et le mari de Julia est mono. Et il s'ouvre tout doucement, mais c'est très difficile pour lui. Il fait un chemin magnifique et remarquable. Et j'ai l'impression qu'il commence à sentir dans sa vie de couple avec Julia des retombées positives de ce qu'elles peuvent vivre à l'extérieur de leur couple. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose auquel il ne s'attendait pas, qu'il nourrit énormément. Et je trouve ça fabuleux. Et moi, je le sens énormément. Ce que peut apporter, ce qui vient enrichir, par exemple, ma relation à Frédéric dans ce qu'il peut vivre avec Julia. Ou avec, et ça, c'est... ça me plaît bien.
Je confirme, Isabelle, parce que moi, j'ai vécu aussi des moments comme ça. Ouais. Et c'est au-delà de bien des choses qu'on nous apprend à l'école quand on est petit. Enfin bon, je fais une référence à l'école parce que j'ai un peu souffert aussi peut-être de modèles imposés. Et j'ai l'impression que dans tout ce que tu racontes aussi, il y a un rapport au présent particulier.
Mmh. Ouais, tout à fait. Un rapport au présent. À ce qui se passe ici, maintenant, et à ce qui est essentiel, quoi. Mmh. Parce que c'est...
Mais donc toi, ce que je trouve fabuleux dans ce que tu viens de dire là, c'est vraiment on voit, hein, je sens dans tes yeux, je vois ça, qu'il y a une joie profonde de savoir que par effet intermédiaire, rebond relationnel d'ouverture amoureuse, d'autres gens qui sont eux-mêmes en relation avec des compagnons à toi, des compagnonnes, ça fait pétiller leurs yeux et tu profites aussi de remarquer, donc il y a un effet de bien-être qui peut se dissiper et que tu en retires une joie profonde.
J'ai une remarque qui m'a beaucoup touchée d'un gars à qui je parlais de ça, en fait, il y a quelques semaines, et qui me dit « Ouais, mais toi, on sent que tu as le pouvoir de l'amour. » Et c'était sa manière à lui de voir les choses, quoi. Et il me dit « Ouais, c'est ce qui te donne ta force, quoi. » Et je me suis dit « Waouh, moi, je dégage ça. » Bon, peut-être, pas tout le temps, mais peut-être à certains moments, ouais. Et c'est vrai, c'est vrai que je me sens vraiment... je sens que ça me régénère, ça me...
Quand tu dis ça, je sens que le mot pouvoir, il est employé aussi parce que tu donnes accès aux autres à ce pouvoir qui est renourri.
Peut-être, ouais, j'espère.
Tu parlais du compagnon, de ta compagne, qui se rend compte tout doucement que lui-même a un pouvoir aussi. Dans l'acceptation, c'est comme s'il ouvrait les possibles.
Tout à fait.
Et ça le renourrit.
Tout à fait, ouais. Et c'est aussi parfois la découverte, par exemple, par rapport à cet homme-là, donc je pense que pendant tout un temps où Julia avait déjà des relations polyamoureuses, mais où c'était vraiment très mal vécu, il avait l'impression qu'elle avait comme un pouvoir sur lui. Alors que maintenant, ça va plus comme si elle avait le pouvoir de quelque chose, mais plus le pouvoir sur. Et ça, c'est aussi pour moi quelque chose qui tourne. Dans la relation à l'autre, de passer du pouvoir sur l'autre au pouvoir de quelque chose qui vient de l'intérieur de soi, qu'on peut partager, mais qui n'est plus quelque chose qui est sur l'autre, qui est la mainmise, qui manipule, qui... Non, c'est pas ça, c'est ça me donne une force en moi, et avec cette force-là, je peux l'allier à la force des autres. Et pour moi, l'amour, c'est vraiment une seule et grande, un grand canal d'énergie. Et en fonction d'avec qui je vais... allier cette énergie, ça va prendre une forme unique. Mais au fond, c'est le même amour, c'est la même énergie, et elle va pouvoir éclore d'une manière, d'une autre. Et j'aime beaucoup c'est le même amour. Et c'est comme un peu l'alliage des métaux, on va pas faire la même chose avec deux métaux. Enfin, et là, pareil, avec deux êtres humains, même si c'est la même énergie, mais avec ce qu'on va être chacun, et ça va donner une certaine forme, et c'est de voir cette pluralité des formes qui pour moi est vraiment magique et permet aussi à une personne de se développer dans la pluralité de ses sources, de ces trésors, quoi, et que souvent je sens très restreinte dans des relations où on a décidé de se nourrir qu'à une seule source et de se suffire et de choses comme ça.
Moi, j'ai l'impression que dans le mouvement polyamoureux, comme ça, la femme a une place très importante et qu'elle a toujours, à mon avis, souvent cette envie de redonner confiance, de retenter. Parce que dans ce que tu expliques, le mari de Julia, donc, a, comme s'il avait réessayé une deuxième fois, si j'ai bien compris, et redonné confiance à son couple et a retenté malgré une première expérience un petit peu décevante. Et donc c'est là où c'est beau aussi, apparemment.
Ouais, c'était, enfin, pour préciser un peu, je pense que son couple a été très ébranlé par le fait que Julia soit devenue polyamoureuse et que ça a été pour lui beaucoup de résistance pendant longtemps, jusqu'au jour où il s'est rendu compte que les expériences que vivait Julia avaient aussi des influences positives sur leur vie de couple au jour le jour. Et c'est... ouais, j'ai un peu perdu le fil de tout, tu disais...
En même temps, pour revenir à ce que tu disais juste avant, parce que tu parlais presque en termes d'énergie là, dans ce que je sentais.
Ouais, c'est...
Moi, ça me ramène aussi à la région où tu vis. Bon, j'ai aussi quelques petites racines bretonnes, mais j'ai un peu passé ma jeunesse là, en dessous des dolmens à Carnac. Mais je suis impressionné aussi, peut-être, de cette espèce de... Bon, il y a La femme celte de Jean Marcal, j'en parle parfois un petit peu. C'est un livre, moi, qui m'a ébloui, passionné. C'est fabuleux de voir comment cet homme-là a été recherché des fragments de contes en Irlande, en Bretagne, et il a fait une sorte de travail de transposition, d'analyse avec, évidemment, la petite couche judéo-chrétienne qui est venue un petit peu polisser, hein, lisser un petit peu toutes ces nuances de ces légendes héritées qui me semblaient était quand même assez orienté vers une sorte de partage en commun. Ah bon, j'ai des images un petit peu peut-être caricaturales, mais j'imagine un petit peu le grand Merlin sur son rocher avec la danse des sorcières, enfin des fêtes païennes dans le bon sens, hein. Donc retrouver une sorte de magie collective. Et j'ai l'impression que quand même qu'à leur époque, il devait aussi fonctionner au monde relationnel un petit peu sur d'autres valeurs que les nôtres aujourd'hui, en tout cas dans l'Occident plutôt influencé par les religions. Est-ce que ça te parle, ça ?
Ouais, tout à fait. Et l'endroit que je vis, quand même un endroit qui est davantage prédominance féminine, quand même. Ouais. On aime bien, en souriant, dire que nous, ce qu'on aimerait bien, c'est non pas redevenir des sorcières, celles qui jettent le sort, celles qui manipulent, mais plutôt des sourcières.
C'est ça.
Voilà, celle qui revient à la source, qui... et on est bon. C'est vrai aussi qu'on a une vie en symbiose, vraiment, avec la nature, et que c'est aussi quelque chose qui fait sens par rapport à ce qu'on vit dans tous les domaines. Mais c'est vraiment, c'est un retour aux sources. Et ce retour-là, il est hors de question qu'on le fasse seul. Pour nous, c'est essentiel de retrouver cette belle alliance du masculin et du féminin, aussi bien masculin et féminin sexué que le féminin et masculin à l'intérieur de soi. Cet équilibre aussi, cette part de... Ouais, et c'est vraiment quelque chose qui est... Peut-être que je sens plus que ce que j'arrive à l'exprimer, mais vraiment tout est lié dans le...
Je sens Frédéric assez féminin, par exemple.
Ouais.
Il a un beau féminin, il me semble.
Ouais. Mais justement, c'est aussi... Enfin, pour moi, cette acceptation de la part féminine en lui... Le fait que lui assume cette part-là, n'entache en rien sa masculinité. Et j'aime cette belle équilibre. Enfin, autant je peux voir parfois le polyamour comme une balance qui aurait davantage que deux plateaux, mais trois, quatre et voire plus, et trouver cet équilibre avec ces différents plateaux. J'imagine ça comme un grand mobile. Et j'aime bien cette image-là. Mais j'imagine aussi la balance en soi entre ces deux parts et trouver la belle danse, en fait, entre le féminin et le masculin en soi. Et tout à fait. Et d'ailleurs, pour faire des liens aussi avec ce que moi, j'ai pu vivre, j'ai eu des débuts un peu chaotiques au niveau de ma sexualité, et où j'ai vécu un peu, à certains moments, mon homosexualité comme un placebo. Parce que un moment de ma vie où je pouvais... pas être en relation physique avec les hommes, et où aujourd'hui, où je peux être dans les mêmes relations avec des hommes ou avec des femmes, et que ce soit totalement, non seulement accepté par les partenaires, mais, mais, mais accueillie et vécue et partagée, pour moi, ça me donne une sensation de complétude et d'extrême liberté, en fait. Et pas qu'à moi, je le sais, qui est fantastique et que j'aurais jamais imaginé. Et avoir l'impression que je partais il y a 20 ans avec cette part d'homosexualité comme un handicap d'une certaine manière, et aujourd'hui que ce soit vraiment un trésor et que ça me permette aussi d'ouvrir la porte à d'autres femmes qui vers ce trésor, quoi. Ouais, c'est beau.
Alors moi, j'ai un paysage qui se dessine tout doucement devant moi, Isabelle. Tu es sourcière, avec ta gibecière, dans tes forêts bretonnes. Et qu'est-ce qu'elle met dans sa gibecière, la sourcière?
Oh, qu'est-ce qu'elle met dans sa gibecière, la sourcière? Elle met des fruits, des fruits de vie aussi, pas que des fruits d'arbres, mais plein de fruits de vie qu'elle aime partager avec les autres. Et ouais, y a des moments comme ça, là où je vis, où on partage nos fruits, on partage. J'aimais des silences aussi. Même si là, il n'y en a pas beaucoup, ce n'est pas très radiophonique, les silences. Mais les silences aussi, c'est très important pour sentir ce qui se passe entre les êtres. Et quand je parlais de l'importance de la communication entre nous, dans ces moments de parole où on fait passer le bâton de palabre ou la pierre entre nous, c'est un objet qu'on fait facilement passer pour seul celui qui a l'objet dans les mains parle. Comme ça, ça facilite l'écoute, ça facilite. Il y a aussi des moments de silence, et ces moments de silence-là, ils ont autant de sens, à mes yeux, enfin à mes oreilles, que les moments de parole. Pour moi, le silence fait aussi partie de la communication, et c'est pas du tout un vide, c'est quelque chose de plein, et qui peut faire un petit peu peur parfois au début, mais qui est essentiel.
Oui, une sorte d'autonomie à soi-même, et je me souviens aussi de... Tu me parlais d'un ruban qui pouvait servir aussi, justement.
Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on avait mis en place. D'ailleurs, ça venait plus de lui que de moi à l'origine, avec mon autre compagnon, où parfois on vivait... Lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup vécu solitaire et pour qui sa solitude est très précieuse et il a besoin de la protéger. Et quand on vivait dans la même maison, il y a des moments où il avait besoin d'être là, mais de ne pas être là. C'est-à-dire d'être là pour l'organisation, tout ça, mais il avait besoin de rester dans sa bulle et qu'on communique pas forcément. Et donc, à ce moment-là, il y avait des gestes de communication non-verbale qui pouvaient se mettre en place pour indiquer à l'autre dans quel état il était. Donc, par exemple, il mettait un bout d'étoffe blanche autour de son poignet et ça voulait dire « je suis là, mais là, on va pas communiquer. On se croise, mais on se regarde pas trop, on se parle pas. Et quand j'aurais enlevé cette étoffe autour de mon poignet, ça y est, je serais là à nouveau en présence à pouvoir partager. » Et en communauté aussi, ou en tribu, ça peut être important d'avoir ces signes-là pour aussi ménager ce dont on a besoin et pouvoir garder cet équilibre entre soi et les autres. Et on parle souvent de l'importance de dire non. Ouais. Et voilà, pour moi aussi, j'apprécie que quelqu'un sache me dire non. Parce que dans ce cas-là, quand il va me dire oui, je vais sentir la valeur de son oui de manière beaucoup plus forte. Et j'apprends de plus en plus à recevoir le oui et le non avec la même... j'attends rien, je te pose la question, c'est oui, c'est non, ok.
Mais tu poses la question parce que dans ce que tu dis justement, j'ai l'impression, pour revenir à l'école, c'est mes petites vengeances, hein, mais on n'apprend pas trop aux élèves, aux enfants à poser des questions... en se disant, tu as droit à cette question, je vais tenir compte de ta question. Donc là, tu dis bien que tu fais une demande. Hein? Donc ça veut dire, faire une demande, c'est aussi exister dans une différence.
Ouais. Et aussi, non seulement exister dans une différence, mais tout de suite mettre au premier plan, attention, on n'a pas les mêmes évidences. Et souvent, quand on s'aime, tout est beau, et on a tendance à calquer ses évidences sur les évidences de l'autre. Et je sais que nous, il y a plein de fois où on est parti dans des impasses, parce que, évident, c'est évident que, c'est évident pour moi, mais si je ne te l'ai pas exprimé, ce ne sera pas forcément évident pour toi. Et ça, c'est un des axes, et ça me fait aussi penser à cette importance aussi de pouvoir ne pas être d'accord en harmonie. Oui. C'est-à-dire le désir de connaître ce que l'autre pense, ce que l'autre veut, ce que l'autre... Et trouver un terrain d'entente pour que ce soit possible de cohabiter, de co-aimer, de co-vivre avec des désaccords. Et que ces désaccords-là, ils soient davantage... des richesses que des choses qui vont bloquer, quoi. Alors bon, bien sûr, il y a des choses essentielles sur lesquelles l'accord est indispensable, mais pas perdre de vue que la diversité, c'est aussi une extrême richesse, et ça, tout le temps.
Alors je pense aussi à des choses que Frédéric m'avait dit. Donc lui, il a organisé à Oslo des espèces de workshops polyamoureux assez intéressants, ouais, de plusieurs jours, et je crois que tu avais été... Tu avais été, est-ce que tu peux faire un petit lien avec ce... peut-être pour avoir un petit effet miroir. Donc Frédéric m'avait un petit peu créé, je réexplique pour nos auditeurs. Donc ils peuvent aussi réécouter évidemment sur le site cette émission. Hein, le vent souffle à travers moi, Frédéric, à un moment donné dans l'interview. Donc c'est quand même assez ambitieux, c'était plusieurs journées dans un beau petit chalet en bois. Tu ouvres, il y a une fjord, on peut aller nager. Enfin moi j'ai aussi, je me suis dit, on ouvre tous les possibles. Donc au niveau déjà du décor, ça me paraît assez fabuleux. Mais il y avait de l'ambition aussi dans l'idée de se dire, voilà, pendant 10 jours, on est une dizaine de personnes, on fait des ateliers le matin d'échange sur du contenu. Après on laisse plus ouvert sur les envies personnelles, les balades en groupe ou tout seul. Voilà, mais je trouve qu'il y a une belle ambition comme ça derrière ces essais de tentatives d'échange, comme ça, de réflexion.
Ouais, ça a été vraiment une très très belle expérience. C'était un camp complètement autogéré, où d'observer comment les choses se passaient, de pouvoir faire des liens après, quand on en discutait, à regarder les formes que les choses prenaient, ou les formes qui se transformaient aussi au cours des 10 jours, et qui étaient très très intéressantes. Et aussi quand il a à certains moments, il y a eu des moments durs dans certaines relations. Mmh. Et le fait de pouvoir tout de suite, sur le vif, on arrête tout ce qu'on est en train de faire, on se met tous en cercle et on en discute. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? S'il y a que 2-3 d'entre nous qui sont concernés, mais on est tous concernés aussi. Et a pu y avoir comme ça des bons pour moi qui ont été faits dans l'évolution de certaines personnes grâce à la réceptivité collective, et grâce à, on s'est tous sentis concernés à certains moments par une tension entre deux, trois êtres, et la manière dont ça a pu après retrouver une fluidité, une harmonie. Pour moi, ça, c'est un truc qui aurait mis 15 jours à se régler à 2-3, quoi. Et là, en 2-3 heures... Ça, on avait fait un pas immense et c'est vraiment super. C'est vraiment, en plus, on était des gens d'un peu, de plusieurs pays d'Europe. On était, il y avait des gens d'Allemagne, France, Norvège, Suisse.
New York aussi, je pense.
Non, ça c'était à Gironde, c'était okay. En Espagne, je crois, mais peut-être. Enfin oui, je ne sais plus trop forcément. Et voilà, des temps de vie partagés comme ça.
Est-ce qu'on pourrait dire que les personnes polyamoureuses ont déjà comme des couches d'oignons dégrossi certaines choses, et que tu as parlé d'un moment un petit peu de mise en alerte comme ça, parce que vous voyez quelqu'un souffrir et que vous avez peut-être pu vous connecter très rapidement parce que chacun du groupe avait déjà peut-être vécu des moments de solitude, de jalousie aussi, il y avait déjà tout un travail qui pouvait être... Donc il y a eu une sorte de compréhension assez rapide, alors, c'est ça?
Ouais. Et c'est aussi souvent quand on rencontre des nouveaux polyamoureux, souvent eux se sentent super isolés, parce qu'ils vivent des choses, ont envie d'avancer, mais tous les gens à qui ils peuvent en parler autour d'eux, que ce soit des thérapeutes, que ce soit les amis, que ce soit la famille, c'est des gens qui débarquent un peu dans ce type de relation et qui vont avoir du mal à les accompagner. Alors que là, c'est aussi ce qui s'est passé avec Frédéric et moi quand on est arrivé chez vous. Vous avez aussi toute cette expérience, et où tout de suite on a pu communiquer sur des choses assez, assez profondes, et où ça, en tout cas moi, ça m'a beaucoup nourri. Et quand on se retrouve comme ça en groupe avec tous une certaine expérience, un certain cheminement par rapport à la question, mais forcément on part d'un autre niveau et on va donc aussi arriver. Et ça, c'est très très important, et c'est aussi pour ça que j'ai envie que c'est une de mes missions dans les années prochaines, ce sera d'en parler et de partager, aussi bien avec des gens qui le vivent, que des gens qui désirent le vivre, que des gens qui savent pas trop, mais en tout cas que ça se démocratise, j'aime pas trop ce mot-là, mais que ça se diffuse, que ça devienne normal. Et aller mélanger les eaux de nos moulins pour fluidifier, pour aider aussi à avancer, parce que moi je crois énormément à ça pour les années à venir. Ça me paraît, je vois pas d'autre chemin possible. quoi.
C'est aussi un espoir pour la jeunesse, ce que tu dis là.
Ouais, ouais, ouais. Mmh. Ouais, ouais.
Mmh. Ben écoute, c'est super, hein, Isabelle. Et là, je confirme, hein, quand tu parles de... Donc, les cafés polis qu'on organise une fois par mois, bon, là, ils sont en train de se régulariser en plus au niveau de la Maison Arc-en-Ciel à Bruxelles, le premier mercredi du mois. Ça va être la nouvelle date, à 19h. Ben, y a cette envie, quand les gens arrivent, enfin, ils expriment ce grand bonheur, comme tu le disais, de s'adresser à des polyamoureux qui, fraîchement arrivés dans l'idéologie, ou même parfois plus longuement, mais qui a vraiment ouf, hein, si on peut un peu parler, sans être peut-être jugé et en étant compris de manière constructive, quoi. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu cette pression de la société, enfin moi je l'ai senti aussi évidemment dans mon histoire, de dire oui mais bon, un polyamoureux dans le fond ne sait pas choisir, c'est un petit peu comme un adolescent attardé qui n'ose pas faire des choix et n'ose pas s'engager, on entend souvent ça.
Ouais, mais ça je pense que c'est... Les gens qui disent ça, c'est les gens qui disent ça de l'extérieur, parce que ça demande énormément de choix et ça demande aussi énormément de précision dans ce pourquoi on s'engage.
Oui.
Et ouais, mais quand je reviens aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est un espoir pour la jeunesse, mais pas seulement pour la jeunesse. Mmh. C'est aussi un espoir pour énormément de gens qui ont déjà pas mal bourlingué, qui sont dans parfois des nœuds ou des impasses au niveau de leur relation. Et moi, j'ai rencontré pas mal de gens qui sont venus à ce type de relation à 40, 50, 60 ans, et pour qui c'était une libération énorme de s'autoriser, d'oser vivre ça. Et voilà, donc pour la jeunesse, oui, mais aussi pour tout le monde, enfin vraiment pour tout le monde. Et ouais, c'est...
Oui, tantôt, tu as dit quelque chose qui m'a vraiment touché aussi, donc... Je ne peux pas perdre Frédéric parce que tu as dit quelque chose.
Je ne le possède pas.
Ouais, voilà.
Je ne le possède pas et je peux perdre que ce que je possède. Et
voilà, ça c'est puissant.
Et,
ça.
Voilà. Et ce qui existe, ben, ça existe. Je ne peux pas nier que ça existe. Aujourd'hui, ça existe et je ne peux pas le nier.
Et ben, je te remercie, Isabelle, vraiment du fond du cœur.
Ben, merci, Phil. Merci beaucoup de m'avoir ouvert ce micro. Et
on peut peut-être même un jour faire une émission avec Frédéric et toi, et puis encore d'autres. Et ouais. Peut-être même qu'on ira faire un tour en Bretagne un de ces jours.
Volontiers. Bienvenue.
Je sais que je suis aussi invité à Oslo, mais moi qui ne sors pas beaucoup toujours de Bruxelles, ça m'impressionne. Hein. C'est le Grand Nord, quoi. Toi, tu as été là-bas. Hein,
oui, ben, j'y vais régulièrement là, depuis 7 ans. Et, ouais, ça vaut le coup.
Ce qui m'impressionne aussi, c'est que pour Frédéric, on est les gens du Sud. Ça, je trouve ça génial.
Ouais, ça, c'est vrai que... ouais. Bah, de la même manière hein, que moi, je me sens... je vis en France. Pour moi, c'est un tout petit pays. Et quand tu dis que la France, c'est un grand pays par rapport... Ben oui, à la Belgique, certes, mais moi, je me sens un tout petit pays en France.
Allez, gros bisous et merci beaucoup. Hein.
Merci à toi, Phil.
Les musiques qui illustrent cette entrevue sont Siesté Ocho du groupe Suerte, pour le générique début et fin, et Long Cours également du groupe Suerte. Ces groupes sont disponibles en téléchargement libre sur jamendo.com sous licence Creative Commons 2.5. Sur le site de polyamour.be, vous trouverez toutes les précieuses informations relatives aux amours pluriels, comme la possibilité de réécouter toutes les émissions Polyplaisir des Utopies en téléchargement ou en écoute sur un lecteur intégré à la page de l'émission. Inscrivez-vous aussi au forum pour connaître les détails des rencontres Polycafé qui ont lieu chaque premier mercredi soir du mois à la Maison Arc-en-Ciel, rue du Marché au Charbon, 42 à 1000 Bruxelles. C'est un bar associatif à deux pas de la Grand Place. Vous y venez de plus en plus nombreux, l'ambiance y est chaleureuse. C'est un endroit ouvert à tous, que vous soyez dans une relation polyamoureuse ou non, vous êtes les bienvenus. Je vous rappelle également les dates de diffusion sur Radio Campus, le deuxième mercredi du mois à 21h30, et en rediffusion le quatrième jeudi du mois à 16h sur 92.1 MHz à Bruxelles. Cette émission est produite sous licence Creative Commons 2.5. Polyplaisir des Utopies, c'est aussi la joie d'émettre sur cette radio intelligente et curieuse qu'est Radio Campus. Je salue au passage Nathalie, Kika, Déborah, Nicolas Frédux, ainsi que toutes les personnes nombreuses et dévouées qui donnent de leur temps afin de construire du contenu de qualité. Je vous retrouve le temps d'une traversée dans quelques semaines sur l'autre rive, celle des imaginaires collectifs, celle des polyplaisirs des utopies.